Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine d'actualité internationale que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est dans notre semaine de déconfinement en direct depuis la maison de la radio. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon, mais aussi Bertie Bourdon, Margot Le Ridon, Luc Calazo, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Audrey Guélil. Suite de notre série consacrée donc à la géopolitique de l'après-Covid, après avoir parlé de l'Union européenne lundi, du modèle chinois hier, place ce matin un outil ô combien essentiel quand il s'agit de répondre à des menaces globales comme le monde doit en affronter aujourd'hui, le multilatéralisme. Vers la fin du multilatéralisme à l'américaine, point d'interrogation, c'est notre question ce matin dans Culture Monde.
Nous sommes confrontés à une crise sanitaire planétaire comme l'Organisation des Nations Unies n'en avait jamais connue en 75 ans d'histoire. Une crise qui propage la souffrance dans toute l'humanité, met en péril l'économie mondiale et bouleverse la vie de tout un chacun. Les mesures prises au niveau national ne permettront pas de remédier à la crise dont l'ampleur et la complexité ont un caractère international. Notre monde est devant un ennemi commun. Nous sommes en guerre contre un virus. Je demande aux dirigeants du monde entier d'unir leurs forces et d'agir de toute urgence et de façon coordonnée face à cette crise planétaire. Les pays doivent cesser d'élaborer chacun de leur côté leur propre stratégie sanitaire et s'employer à définir une stratégie qui permette, en toute transparence, une action mondiale coordonnée, susceptible notamment d'aider les pays les moins aptes à faire face à la crise.
Alors que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qu'on entendait à l'instant, appelait à la solidarité et l'action collective le 19 mars dernier, son Conseil de sécurité aura attendu encore presque un mois pour évoquer la pandémie le 10 avril. Un retard à l'allumage qui illustre dramatiquement cette difficulté actuelle des États à traiter ensemble les problèmes du monde. Et comme trop souvent ces dernières années, le Conseil n'est pas parvenu à s'accorder sur un texte commun, les États-Unis insistant pour que l'origine chinoise y soit mentionnée, tandis que Pékin rejetait toute politisation du virus. Quelques jours plus tard, comme pour affirmer son unilatéralisme, le président Donald Trump annonçait la suspension de la contribution américaine à l'OMS. Et depuis ? Eh bien, depuis pas grand-chose, puisque le texte soutenu par Guterres appelant à un cessez-le-feu pour une durée de 90 jours afin de faciliter la lutte contre la maladie dans les pays en crise ou en guerre, se heurte toujours à l'opposition de Washington. Principale puissance de la planète est durement touchée par l'épidémie, les États-Unis semblent n'avoir jamais été aussi peu soucieux du reste du monde et si peu enclins à jouer leur rôle de leader, alors même qu'ils étaient la clé de voûte du système international tel qu'il a été construit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors ce multilatéralisme à l'américaine est-il sur le point de mourir? Le Covid-19 sera-t-il le fossoyeur d'un modèle de gouvernance globale qui, bien qu'imparfait, avait quand même l'avantage d'exister? Alors quel ordre international sans multilatéralisme? Quel nouveau modèle à inventer? Sur quelle conception du droit international peut-il s'appuyer et quelle place y tiendront les différents acteurs, la Chine, l'Europe et l'Afrique? Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons nous pencher. Pour ce faire, nous avons invité ce matin Serge Sure. Bonjour Serge Sure.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur émérite de droit public à l'Université Paris Panthéon Assas, rédacteur en chef de la revue Questions internationales. Avec nous également Alexandra Dobscheffer. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis et des relations transatlantiques et vous êtes directrice du think tank German Marshall Fund. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on va commencer avec évidemment l'actualité. Il nous faudra bien sûr prendre un petit peu de hauteur et regarder les choses avec un peu de perspective historique. Mais quand même, évidemment, cette actualité, c'est celle du Covid. Parce que ça fait des années, bien sûr, qu'on évoque les défaillances du multilatéralisme tel qu'il existe aujourd'hui. On a répété à l'envi ces derniers mois, ces dernières années même, combien l'actuel président américain avait abîmé ce qu'il reste de multilatéralisme en se retirant de l'accord de Paris, en déchirant l'accord sur le nucléaire iranien, ou encore celui sur la limitation des armes nucléaires à portée intermédiaire. Mais il y a évidemment bien d'autres responsables et bien d'autres puissances qui ont largement participé à cet affaiblissement du multilatéralisme. Est-ce qu'il vous semble que là, ce Covid-19, Serge Sure, Alexandra Dobscheffer, va définitivement enterrer ce système système multilatéral actuel et est-ce qu'on peut encore faire semblant de penser, de croire qu'il fonctionne alors même qu'une pandémie mondiale dont a priori aucun pays n'est intentionnellement en tout cas à l'origine, ne permet même pas de créer les conditions de la concertation. Serge Sion.
Alors écoutez, d'abord je voudrais rebondir sur votre intitulé multilatéralisme à l'américaine. En réalité, depuis 1945, il y a eu plusieurs types de multilatéralisme. Et le premier multilatéralisme, qui est celui des Nations Unies, qui au fond est le parapluie général qui recouvre tous les autres, il n'est pas spécifiquement américain, il est américano-soviétique. Les États-Unis ont pris le contrôle des Nations Unies pendant une quinzaine ou une vingtaine d'années, et ensuite ils l'ont perdu. Alors ce multilatéralisme américano-soviétique, il était stratégique, c'est-à-dire qu'il était avant tout tourné vers les questions du maintien de la paix, vers les questions de la paix internationale et de la sécurité internationale. Alors il s'est traduit par exemple par le TNP, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, par le traité sur l'espace, et même avant ça par le traité sur l'Antarctique. À ce multilatéralisme américano-soviétique a succédé une variante qui était proprement occidentale et plus proprement américaine, c'était celle de l'OTAN, c'était celle de l'Union européenne, et puis, plus particulièrement américaine, c'était l'OMC, en 1994. Et puis ensuite, il y a eu un autre multilatéralisme, ou une autre tentative de multilatéralisme, qui était tiers-mondiste. Les pays du tiers-monde, récemment indépendants, ont conquis la majorité de l'Assemblée générale et ont essayé d'y faire prévaloir leur vue. Et ils ont développé le thème du nouvel ordre économique international. Ils ont essayé d'obtenir un certain nombre d'avantages redistributeurs. Les États-Unis étaient tout à fait hostiles. C'était pas le multilatéralisme américain. Et l'aboutissement de cela sur le plan juridique, c'était la convention de Montego Bay sur les espaces maritimes, avec l'idée que les ressources du fonds des mers allaient être attribuées de préférence aux pays en développement pour favoriser précisément leur développement. Eh bien, cette idée, elle a été rapidement abandonnée sous la pression américaine. On a éliminé de la convention de Montego Bay tout ce qui était redistributeur. Les États-Unis n'y sont même pas devenus partie. Ensuite, il y a eu un troisième type de multilatéralisme que j'appellerais le multilatéralisme humanitaire. Et c'est celui auquel faisait allusion le secrétaire général des Nations Unies, qui d'ailleurs a été élu comme humanitaire. Et là, on a une influence qui est plutôt européenne. Et les États-Unis s'en sont tenus largement à l'écart. C'est la Cour pénale internationale. C'est la COP21. Ce sont les armes du type armes à sous-munition ou mines antipersonnelles. Et ce multilatéralisme, il est faible, en ce sens que beaucoup d'États et de grandes puissances n'y sont pas partis, n'acceptent pas ce type de multilatéralisme, et que les dispositions qu'il contient, les stipulations qu'il prévoit, sont également faibles.
Oui, donc c'est peut-être moins, Serge Sûr, finalement, si je vous entends, moins un multilatéralisme à l'américaine qui serait en train de mourir, mais un multilatéralisme humanitaire et peut-être même teinté d'Europe qui serait en train de s'effondrer. Oui. Je voudrais peut-être entendre Alexandra de Hubschefer sur, en tout cas, l'idée que et peut-être ce Covid serait en train d'enterrer ce multilatéralisme tel qu'il existe aujourd'hui. C'est quand même absolument ahurissant, Alexandra de Hubschefer, de se dire que sur un sujet comme celui-ci, une pandémie mondiale, qu'on n'arrive pas à s'entendre sur une solution politique en Syrie, qu'on n'arrive pas à s'entendre sur un accord climatique où évidemment il y a des intérêts divergents qui jouent. Enfin là, sur une pandémie, c'était quand même pas très, ça coûtait pas très cher de se mettre d'accord sur un texte qui déclarait un état d'urgence sanitaire général qui déclarait une solidarité envers une menace qui concerne tout le monde, enfin, quand même.
Absolument. Moi, j'en retire trois leçons, véritablement. D'abord que, comme vous l'avez dit, la pandémie, typiquement, c'est un sujet qui aurait dû rallier au moins les pays du G20 autour d'une réponse collective à cette crise. Ce qu'on voit, c'est que aucun pays ne peut gérer cette crise seul, mais que en revanche, la coopération internationale, cette communauté internationale qui est un concept, je crois qu'on ne devrait plus utiliser, n'existe pas. Il n'y a pas de communauté internationale, alors que la coopération au niveau mondial est absolument essentielle. Et ça, pour moi, le problème véritablement, c'est également dû à ce choc des puissances entre la Chine et les États-Unis, qui fait que c'est un obstacle permanent extrêmement nuisible à la coopération internationale. On l'a vu ces dernières semaines avec les réunions de G7, de G20. Il y a une incapacité, un blocage total à pouvoir justement, comme vous l'avez dit, émettre des résolutions ou en tout cas réfléchir ensemble de manière concertée, bien sûr, à la gestion de crise, mais surtout à l'après et notamment les implications économiques que cette crise aura à la fois dans les pays développés et les pays moins développés. Donc ça, c'est la première leçon que j'en tire. La deuxième, c'est le leadership américain, puisque vous avez intitulé l'émission « Le multilatéralisme à l'américaine ». Ce qui me frappe, c'est que ce leadership américain compte par ce qu'il fait, mais de plus en plus par ce qu'il ne fait plus. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se pencher et anticiper de manière beaucoup plus sérieuse les implications d'un leadership américain qui est beaucoup moins impliqué justement dans ce qu'on appelle le coalition building, c'est-à-dire la construction de coalitions, être un peu le chef d'orchestre des réponses collectives aux défis et aux crises de ce 21e siècle. Et on voit que quand il n'y a pas l'effet d'entraînement américain, eh bien, il n'y a aucun effet d'entraînement et que ce leadership américain est très, très, très difficilement remplaçable. Et ce qu'on voit émerger, c'est un multilatéralisme à la chinoise qui est différent de celui de à l'américaine, mais qui finalement se base sur les mêmes principes puisque les États-Unis ont toujours été extrêmement ambivalents envers les organisations multilatérales. C'est-à-dire que si les États-Unis et maintenant, aujourd'hui, la Chine perçoivent que les instances multilatérales peuvent mettre à mal leurs intérêts, eh bien, on les contourne tout simplement, c'est l'unilatéralisme. En revanche, si elles peuvent servir d'instruments pratiques pour avancer leurs visions et leurs intérêts, on y va à fond. Et donc, on a cette ambivalence qui moi, me rappelle beaucoup en ce moment dans la pratique chinoise du multilatéralisme, la pratique américaine telle qu'on l'a vue ces dernières années. Et troisième leçon, c'est que il va falloir bien sûr repenser ces instances multilatérales parce que la crise, cette pandémie qu'on a, c'est juste un tout petit exemple des crises qu'on va devoir affronter, c'est-à-dire à la fois une crise sanitaire, une crise économique, une crise sans doute climatique et donc aussi sécuritaire. Donc cette crise n'est pas que sanitaire et on le voit, c'est géopolitique, géostratégique, économique. Et donc ça va demander encore plus de multilatéralisme et de réponses collectives. Et là, pour le moment, moi, pour moi, le vrai blocage, c'est cette tension entre la Chine et les États-Unis qui bloquent au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, de l'OMS et puis des instances type G7 et G20.
En tout cas, c'est clairement cet affrontement sino-américain qui aujourd'hui bloque effectivement pour voter ce projet de résolution qui a été porté par la France et la Tunisie qui permettrait de mettre une trêve effectivement de 90 jours dans un certain nombre de conflits qui sont touchés évidemment par la guerre mais aussi par cette pandémie. Serge Sûr, il y a plusieurs choses, peut-être on va revenir sur l'importance de cet affrontement sino-américain, mais Alexandra Dubschefer a utilisé cette expression « multilatéralisme à la chinoise ». Effectivement, il faut peut-être s'interroger là-dessus parce que ces dernières années, la Chine a énormément déployé d'efforts pour accroître sa présence dans les institutions internationales. Il faut quand même noter que on a 4 Chinois qui sont à la tête des 15 agences onusienne. Il y a eu un moment où la Chine a joué la carte de la création d'institutions alternatives, mais maintenant on a changé, c'est-à-dire qu'on veut introduire les institutions existantes et accroître son influence. Et puis par ailleurs, on a évidemment maintenant un président Xi Jinping chinois qui affiche de façon assez claire le nouveau rôle que pour son pays dans les affaires internationales, dans le multilatéralisme. Xi Jinping est devenu le nouveau héros du multilatéralisme. Mais ça serait quoi un multilatéralisme à la chinoise? Et au fond, est-ce que la Chine pourrait devenir la nouvelle clé de voûte de ce futur multilatéralisme qui pourrait advenir, Serge Sûr?
Écoutez, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Alexandra de Hoopcheffer sur le fait que la Chine imite en quelque sorte le modèle américain, mais je crois qu'il y a ses profondes différences. D'abord, elle maintient le double track, c'est-à-dire que d'un côté, elle s'efforce d'investir les institutions existantes, et l'exemple de l'OMS est tout à fait parlant, et d'un autre côté, elle s'efforce de développer son propre multilatéralisme. Vous y avez fait allusion. Mais je crois qu'il y a une différence très importante. Le multilatéralisme américain, lorsqu'il a existé, il était ouvert sur le monde parce que les États-Unis, c'est un pays récent, c'est un pays d'immigration, où tout le monde se retrouve, et les États-Unis retrouvent également tout le monde. Le multilatéralisme chinois, il est très sino-centré. Il est fondé sur une expansion nationale qui est très affirmative et de plus en plus affirmative. Et là, je crois qu'il y a une très grande différence, parce que là où on appelait, on demandait le multilatéralisme américain, au fond, le XXe siècle s'est passé à attendre les États-Unis. Et puis ils sont arrivés, puis ils sont repartis. Et on n'attend pas le multilatéralisme à la chinoise. On le redoute plutôt. Et la perception actuelle de la Chine n'est pas positive. On a le sentiment que ce virus, puisque nous parlons du Covid, vient de Chine. On a le sentiment que la Chine est plutôt une menace. Et au fond, elle se manifeste plus par sa capacité de nuire que par sa capacité d'apporter des bénéfices. Et ça, la capacité de nuire, ça n'est pas la marque du leadership, c'est la marque de l'hégémonie. Et donc le multilatéralisme à la chinoise, il est beaucoup plus hégémonique que n'était le premier libéralisme, le premier multilatéralisme américain. Les États-Unis, ensuite, on virait aussi vers l'hégémonie, mais avec l'unilatéralisme. Et leur unilatéralisme, il n'est pas récent. Il remonte à 1971, c'est-à-dire à 50 ans, lorsque les États-Unis ont quitté le système de Bretton Woods, lorsque le dollar est devenu la seule monnaie de référence universelle, se substituant au gold exchange standard. Là, nous avons la démonstration, la matrice de l'unilatéralisme américain. Donc, ça n'est pas un phénomène nouveau. Mais on peut dire qu'il y a une tentative de multilatéralisme chinois qui se heurte à l'unilatéralisme américain, mais les deux reposent sur le même principe, l'hégémonie. Et en l'occurrence, effectivement, il n'y a plus de leadership, il y a une capacité de nuire des deux puissances. Capacité de se nuire mutuellement, mais aussi de nuire aux autres.
Alexandra Dobscheffer, est-ce que vous rejoignez totalement Serge Sûr sur d'abord l'idée qu'un multilatéralisme à la chinoise serait en réalité très différent du multilatéralisme américain, en ce sens qu'il serait beaucoup plus fermé et donc plus dangereux d'une certaine manière, en tout cas qu'on le craindrait? Et est-ce que effectivement vous pensez que en réalité, outre la Chine, assez peu d'États sont prêts à suivre Pékin sur un multilatéralisme à la chinoise? Parce que j'entends bien que depuis nos démocraties, le modèle chinois fait peur et que les valeurs de la démocratie soient importantes au point de rejeter ce modèle-là. Sauf que la démocratie n'est pas partagée par tous. Il y a beaucoup d'États, de pays, de responsables politiques qui considèrent en réalité que ce modèle chinois, ce modèle politique n'est pas aussi mauvais que cela. Et peut-être qu'une partie du monde, en tout cas, serait enclin à suivre Pékin sur la voie de ce nouveau multilatéralisme.
Moi, je partage tout à fait ce que Serge Sûr vient de dire. Mm-hmm. Et j'irai même plus loin en disant, c'est vrai qu'on parle beaucoup de... C'est vrai qu'on peut avoir cette impression d'une désoccidentalisation. C'est très à la mode, n'est-ce pas, de l'ordre international, avec une Chine qui deviendrait la nouvelle puissance hégémonique et qui remplacerait les États-Unis. Je ne crois pas du tout à ce qu'on pourrait appeler le soft power chinois. Effectivement, on parle du multilatéralisme, et plus en fait une puissance s'investit dans les organisations multilatérales, et plus finalement elle renforce son soft power dans le monde. C'était un peu le principe de cette puissance américaine qui finalement, à travers sa pratique du multilatéralisme à la carte, avait réussi à, en quelque sorte, à construire et à renforcer sa force d'attractivité vis-à-vis de ses alliés, mais aussi d'autres puissances. Quelque chose que finalement les États-Unis, depuis des dizaines, enfin plutôt 20 ans notamment, ont choisi de se désengager partiellement. On l'a vu avec Bush Junior, on l'a vu également avec Obama, qui était loin d'être parfait au sein des instances multilatérales, et on le voit encore plus sous Trump. Mais c'est vrai que j'ai du mal à voir un remplacement du leadership américain par le leadership chinois, en raison de toutes les différences qu'a très bien décrites Serge Sûr. En revanche, ce que l'on voit, c'est effectivement une stratégie chinoise extrêmement réfléchie, alors que nous, la communauté transatlantique, nous n'avons aucune stratégie multilatérale, si je puis dire. C'est-à-dire que la Chine cherche effectivement à gagner de plus en plus de postes clés partout, dans toutes les organisations international. À l'ONU, Pékin est le deuxième contributeur financier. À l'UNESCO, le premier contributeur, tandis que les États-Unis s'en sont retirés en 2019. La Chine fournit les casques bleus, le plus grand nombre de casques bleus à l'ONU, la FAO, etc. Enfin, on peut citer une quantité de manières dont la Chine est en train, effectivement, de renforcer son influence. Et je pense que ce qu'il faut le craindre le plus, c'est la capacité de la Chine à utiliser ça aussi comme levier diplomatique et politique. Plus la Chine sera présente au sein des organisations multilatérales et plus elle pourra justement manier et façonner aussi le contenu des discussions, bloquer certaines décisions, résolutions. On l'a très bien vu, moi j'étais très frappée au mois de mars, c'est la Chine qui présidait le Conseil de sécurité des Nations Unies, donc vraiment dans la phase où la Chine était dans le pire des niveaux de Covid chez elle, et elle a tout fait pour que le Covid ne soit même pas discuté au sein des réunions du Conseil de sécurité. Donc tous les conflits du monde ont été débattus et discutés par les membres du Conseil de sécurité, sauf le Covid, parce qu'elle ne voulait certainement pas justement déclarer un état d'urgence ou se voir critiquée dans sa gestion de la crise ou de son manque de transparence.
Mais reste à voir ce qu'elle pourra en faire.
C'est ça qui pour moi est un facteur inquiétant.
Mais reste à voir, Alexandra Dobscheffer, ce qu'elle pourra en faire, parce que bloquer c'est une chose, ensuite emmener pour agir en est une autre. Et alors là, je me tourne vers vous, Serge Sûr, je vais vous poser une question, je sais qu'elle va vous faire un peu sortir de vos gonds, mais au fond, si l'ONU n'est pas capable de se mettre d'accord sur un conflit comme celui de la Syrie, si l'ONU n'est pas capable de mettre en place un accord sur le climat respecté par les uns et les autres, si l'ONU n'est pas capable de s'unir et de rassembler les conditions de la concertation, je parle même pas d'un accord, mais de la concertation sur une pandémie mondiale, à quoi va servir l'ONU? Ça, c'est ma première question. Est-ce qu'elle a encore une fonction? Et la deuxième qui ira derrière, c'est est-ce que on peut espérer une réforme des Nations Unies qui, malgré tout, reste, même si c'est probablement une institution critiquable, mais reste la meilleure arène pour traiter des problèmes du monde? Commençons par la première, l'ONU. Ça va servir à quoi, Serge Sûr?
Écoutez, vous apportez vous-même les réponses à vos questions en disant que l'ONU est tout à fait irremplaçable, parce que c'est un endroit où tout le monde se retrouve, c'est un endroit où on ne négocie pas nécessairement, mais on discute, on est en contact, et en soi, l'existence de l'ONU est une mesure de confiance entre les États. Elle évite qu'il y ait trop de mauvaises interprétations des conduites des uns des autres, on s'explique. Alors maintenant, la santé publique n'est pas une des priorités de la charte. Elle est mentionnée uniquement dans l'article 55, qui traite de la coopération économique et sociale. Et en termes de santé publique, le Conseil de sécurité, a priori, n'est pas compétent. Il faut qu'il considère que ça constitue une menace à la sécurité. Et on peut dire que c'est le cas, mais c'est discutable. Alors le Conseil de sécurité, il peut être de ses compétences autant qu'il le souhaite. Mais il est l'instrument des grandes puissances. Et quand les grandes puissances ne s'entendent pas, il est paralysé. Il ne faut pas s'en prendre au Conseil, il faut s'en prendre aux grandes puissances elles-mêmes. Et le fait que le Conseil de sécurité soit paralysé dans certaines situations n'est pas une nouveauté. Ça a été même la situation la plus fréquente depuis 1945. Ce qui n'empêche pas qu'il remplit un rôle très positif, même si c'est un rôle limité. Alors, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Maintenant, je voudrais dire un mot sur le Covid-19 et sur le problème de la coopération internationale.
Et vous ne m'ouvrirez pas sur la capacité de réforme ou non des Nations Unies.
Je vais y revenir. Merci. Mais pendant que je traite de la santé publique, je voudrais simplement dire que s'il n'y a pas de coopération entre les États, il y a des contacts extrêmement fréquents entre les laboratoires de tous les États. Et les scientifiques, il y a une internationale de savants, de scientifiques, de chercheurs, qui savent parfaitement sur quoi les uns et les autres travaillent. Donc il y a cette internationale. Et tout le monde est à la recherche d'un vaccin et d'un médicament. Et celui qui l'aura trouvé, il aura évidemment remporté un grand succès pour lui-même, mais aussi pour son pays. Parce que derrière, il y a des brevets, derrière, il y a des conséquences industrielles gigantesques. Il faudra fabriquer des milliards de doses de médicaments ou de vaccins. Vous imaginez un petit peu le retentissement économique que ça peut avoir. Donc c'est aussi un élément de la compétition économique entre États, mais ça se déroule dans un cadre qui est un cadre d'une certaine forme de coopération. Parce qu'une fois qu'on aura trouvé cela, il y aura des sous-traitants. Il y aura une répartition internationale des activités. Et donc, ça pourra contribuer à l'internationalisation. Ça ne sera pas la forme du multilatéralisme classique, intergouvernemental, mais c'est tout de même une forme de multilatéralisme. Maintenant, sur la réforme des Nations Unies, eh bien, écoute, je crois qu'il faut l'oublier, cette réforme. Parce que la charte est verrouillée de telle façon qu'on peut modifier les pratiques, mais qu'on ne peut pas véritablement modifier la charte elle-même. L'expansion du Conseil de sécurité, c'est un serpent de mer depuis la chute de l'URSS, depuis 1992. Et depuis maintenant près de 30 ans, on n'a abouti à rien. Et on n'aboutira à rien, on ne peut pas réformer le Conseil de sécurité. On peut changer ses pratiques, on peut lui adjoindre des organes subsidiaires, il peut lui-même se réformer en quelque sorte, mais pas par une réforme de la charte.
Alexandra de Hoopscheffer, je voudrais qu'on essaye de comprendre un peu les racines de l'unilatéralisme trumpien, parce que évidemment la crise du multilatéralisme, c'est pas seulement Trump qui en est à l'origine, mais enfin ce qu'il y a de nouveau un peu avec Trump, c'est que lui, il affiche et il affirme son unilatéralisme. Alors c'est pas nouveau, c'est pas depuis le Covid. Écoutez ce qu'il disait déjà, c'était en janvier 2018 à Davos.
As president of the United States, I will always put America first.
En tant que président des États-Unis, je ferai toujours des intérêts de l'Amérique une priorité. De la même manière que les dirigeants des autres pays devraient aussi placer les intérêts de leur nation en premier. Mais America First ne signifie pas l'Amérique seule. Quand l'Amérique est puissante, cela est bénéfique pour le reste du monde. La prospérité américaine a créé d'innombrables emplois à travers le monde. Et notre dynamique en matière de créativité et d'innovation a permis d'importantes découvertes qui ont apporté la prospérité et une meilleure qualité de vie aux gens partout dans le monde.
Voilà, Donald Trump qui, au fond, invite tous les pays à prendre ce chemin de l'unilatéralisme. Alors, si on regarde ce qui s'est passé récemment avec cette crise, Alexandra de Hoopscheffer, du Covid, on a vu, quand la pandémie a touché les États-Unis, comment Trump a évoqué l'éventualité d'une interdiction des exportations de matériel médical à destination des alliés américains. Et répondant à une question d'un journaliste, il a lancé une pique à destination de l'Union européenne, comme il en a désormais l'habitude. Je vous cite ce qu'il a dit. « Nous fabriquons le meilleur matériel au monde et vous avez des gens comme l'Union européenne qui ne le prennent pas car ils ont des spécifications qui ne permettent pas à notre équipement d'être importé. Ils jouent contre nous depuis des années et aucun président n'a jamais rien fait à ce sujet. » Est-ce qu'au fond, cette critique de Donald Trump, elle est totalement injustifiée? Est-ce qu'il n'y a pas eu effectivement peut-être une tendance à s'appuyer de façon abusive sur les capacités américaines, notamment je pense en matière de sécurité, et qui expliquerait peut-être cet unilatéralisme trumpien?
Alors, cet unilatéralisme trumpien qui s'appelle America First, on connaît tous maintenant le concept, n'a effectivement rien de très nouveau. Et d'ailleurs, si vous parlez avec certains de ses proches conseillers, ils vont vous rire au nez en disant, écoutez, la politique étrangère américaine, ça a toujours été l'Amérique d'abord. Tout comme vous, la France, tout comme vous, les Allemands, vous avez toujours défendu vos intérêts nationaux d'abord. Il n'y a rien de nouveau. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, Trump n'utilise pas ce joli vernis de l'ordre libéral international que toutes les autres administrations ont utilisé. Donc, on est beaucoup plus honnête avec vous quant à notre position sur cette question-là. Donc ça, c'est vraiment le retour. Voilà, on avance à visage démasqué et au moins, ce sera clair. Mais c'est vrai que à l'époque de la guerre en Irak, en 2003, on se souvient que Bush avait inversé le paradigme du multilatéralisme à l'américaine de l'administration Clinton. Il avait dit « Les Américains seront multilatéraux si nous devons et unilatéraux si nous pouvons ». Et cette phrase-là vraiment résume cette ambivalence américaine, c'est-à-dire que comme les Américains ont la puissance et les capacités pour agir de manière unilatérale, eh bien, ils ne vont pas hésiter dans certains cas, s'ils sentent que la machine multilatérale est trop lourde et les contraignent trop, ils vont agir de manière unilatérale. C'est un peu la thèse de Robert Kagan. Les États-Unis viennent de Mars, ils ont la puissance, donc ils peuvent agir unilatéralement. L'Europe est une petite Vénus un peu faible, et donc elle n'a pas la capacité d'agir de manière unilatérale, et donc est obligée de coopérer avec les autres. Ce qui nous amène finalement à une situation fortement risquée, puisque tout ça, bien sûr, le facteur américain vient véritablement fragiliser le système d'alliances, que ce soit des alliances formelles ou informelles, type G7, G20, etc. Et moi, l'avenir du multilatéralisme, je le vois vraiment comme un multilatéralisme de plus en plus fluide, de plus en plus à géométrie variable. On voit que dès qu'on a une crise, le premier réflexe, c'est finalement de créer des groupes de contact ou de se retrouver à petits comités entre pays qui partageraient à peu près la même vision des choses à faire ou des réponses à apporter. Et le réflexe, c'est pas forcément d'aller vers justement l'OMS ou les organisations internationales qui travaillent précisément sur ces sujets depuis leur création. Et dernier point là-dessus, c'est que
Donc des alliances ad hoc qui veulent dire aussi qu'on rentre dans un monde qui est beaucoup plus imprédictible. C'est-à-dire les logiques de blocs, les logiques d'alliance changent au cours du temps, changent au cours des thèmes. Donc c'est ça aussi que ça veut dire.
Oui, ouais. Et peut-être que c'est pas une si mauvaise chose finalement, parce que les enjeux aujourd'hui sont tellement transversaux, tellement complexes, que peut-être de passer dans un premier temps dans un format de coopération un peu plus restreint pour ensuite aller porter des sujets au sein des organisations formelles, ONU, OMS, etc., peut-être que c'est pas une si mauvaise chose. Mais ce lien entre les groupes informels, les groupes de contact et ensuite les grosses organisations internationales n'est souvent pas fait. Et dernier point qui me semble très important, c'est que quand on voit que le leadership américain ne fonctionne pas comme il a fonctionné ces 70 dernières années, America First, le discours que vous venez de nous faire entendre sur Trump, la conséquence immédiate, c'est que cela a un effet d'émulation auprès de nous, Européens, des alliés. On critique beaucoup America First, mais nous, Européens, on a été France d'abord, Allemagne d'abord, parce qu'on n'a pas eu la capacité, on n'était pas préparé à la gestion de cette crise. Donc on critique beaucoup le réflexe nationaliste de Trump, et c'est vrai que dans la première phase, nous avons tous agi finalement de la même façon, et donc maintenant il est temps justement d'avancer ensemble dans une réponse qui soit un peu plus coordonnée au niveau mondial.
Sauf que dans les discours quand même, du côté de l'Europe, on est beaucoup plus dans une approche de défense du multilatéralisme, et peut-être en particulier du côté de la France, avec un Emmanuel Macron qui se pose très régulièrement en défenseur farouche du multilatéralisme. Et justement, c'est là où je voulais en venir, Serge Sûr, avant d'évoquer l'OMS avec Oriane Guilbault, qu'on va retrouver par téléphone. Mais au fond, doit faire l'Europe dans ce nouveau contexte qu'on est en train de décrire depuis maintenant un peu plus d'une demi-heure avec vous et Alexandra Daubscheffer? Est-ce que il faut que l'Europe essaye tant bien que mal d'éviter l'effondrement total de ce multilatéralisme qui est en train de se jouer devant nous? Est-ce qu'il faut qu'elle se concentre sur ses défis internes? Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire?
Écoutez, je voudrais dire, d'abord, il n'y a pas d'effondrement du multilatéralisme. Il y a une érosion, il y a un affaiblissement, mais il y a un socle structurel qui demeure. Et notamment les Nations Unies, et puis toute une série de traités multilatéraux qui fonctionnent très bien. Maintenant, deuxième observation, c'est sur le leadership. Le leadership américain, il a disparu en fait dans les années 70, après la fin de la guerre du Vietnam. Là, les États-Unis ont commencé à jouer seuls, et je rappelais le rôle du dollar et le rôle de la rupture des accords de Bretton Woods. Là, je crois qu'il y a eu un véritable tournant. On a continué à employer l'expression leadership, mais en fait, il avait disparu. Et pour venir à votre question, l'Europe, évidemment, elle a maintenant une fenêtre d'opportunité. Ça serait le moment de se manifester. Mais elle est trop divisée par ses problèmes intérieurs, elle n'a pas de cohérence, elle n'a pas de volonté commune. Et la raison pour laquelle l'Europe pourrait agir, c'est qu'au fond, chaque État est tenté de faire seul ce qu'il peut faire seul. Et si on agit collectivement, c'est parce qu'on ne peut pas agir tout seul. Et les pays européens sont dans une position qui ne leur permet pas d'agir seul. Et donc, il faut qu'ils se regroupent. Mais leur regroupement, sur quoi pourrait-il reposer aujourd'hui? Au fond, on sait bien qu'il y a une puissance dominante et qui est l'Allemagne. Mais l'Allemagne ne veut pas de l'Europe. Elle veut de moins en moins de l'Europe. Et le pays qui a manqué à sa mission, qui a manqué à son leadership, qu'il aurait pu assumer depuis une dizaine d'années, c'est l'Allemagne. L'Allemagne de Madame Merkel. Et là, je pense qu'il y a une responsabilité historique très forte.
Il y a un rendez-vous manqué.
De la même manière que les États-Unis ont manqué complètement la décennie 90, où là, ils auraient pu réformer le système international, où on les attendait, où tout le monde attendait une réforme. Et ils ne l'ont pas faite. Eh bien, de la même manière, l'Allemagne a laissé passer une décennie où elle avait la possibilité de réorganiser l'Europe et de l'aider à jouer véritablement un rôle mondial. La France l'y aurait accompagnée très volontiers, mais l'Allemagne a été en effet absente au rendez-vous.
Serge Sure, vous restez avec nous. On va poursuivre toutes ces interrogations autour de la fin peut-être de ce multilatéralisme à l'américaine. C'est comme ça qu'on avait titré, mais en fait, vous nous disiez que c'est peut-être pas vraiment un multilatéralisme à l'américaine. Dans cette série consacrée à la géopolitique de l'après-Covid, Alexandra de Hubschefer, on vous libère, vous devez partir, vous êtes donc déconfinée. Merci infiniment d'avoir échanger avec nous ce matin. On va parler de l'OMS en particulier. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde. On est en direct de la Maison de la Radio, 11h35.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Nous allons faire une étude, une enquête et nous allons décider de ce que nous allons faire. Mais d'autres pays, comme vous le savez, ont donné beaucoup moins que les États-Unis. Et l'OMS s'est trompé. Ils se sont trompés à bien des égards. Ils ont eu tort. Ils ont aussi minimisé la menace très fortement et pas bien.
Voilà, not good, disait Donald Trump le 10 avril dernier à propos de l'OMS. On va retrouver une nouvelle invitée, Oriane Guilbeault, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes maîtresse de conférence de sciences politiques à l'Université Paris 8 et chercheuse au CNRS. Il y a eu beaucoup de critiques qui ont été formulées à l'égard de l'OMS. Elle a agi trop tardivement, son action n'a pas été à la hauteur de l'enjeu. Il y a aussi la question des liens avec la Chine. On y reviendra, mais sur la critique que formule Trump, not good, est-ce qu'en réalité, il n'a pas un peu raison, Oriane Guilbeault?
Merci déjà de votre invitation. Non, je crois que vous avez dit, je pense qu'on va y revenir pour détailler un petit peu toutes les critiques qui ont été faites et voir comment on peut les analyser la réponse de l'OMS en détail. Mais sur en fait les critiques de Donald Trump que l'on vient d'entendre à l'instant, je crois que c'est important en fait de bien comprendre le statut de ces critiques et de les distinguer en fait. C'est parce qu'elles rentrent dans une catégorie spécifique, parce qu'elles sont portées justement par l'administration Trump, qui cherche clairement à se dédouaner et à se défausser sur l'Organisation mondiale de la santé, en reportant sur l'organisation finalement exactement les critiques qui lui sont adressées dans sa gestion de la crise nationalement au niveau des États-Unis. Et le moment auquel il fait ses critiques fortement, publiquement et de manière très spectaculaire, c'est également le moment où la situation devient extrêmement critique aux États-Unis. Donc là on a l'administration, on a le président Donald Trump qui réagit de manière classique vis-à-vis de sa politique étrangère, d'un désengagement des organisations multilatérales. Et dans un contexte de campagne électorale également, et dans un contexte également où la confrontation avec la Chine, qui était préexistée à la crise sanitaire, mais là et devient vraiment une constante et tout le temps remise en avant.
Donc, mais s'agissant de l'OMS, est-ce qu'elle est pardon de vous couper, Oriane Guilbeault. Oui. Mais s'agissant de l'OMS, est-ce que pour le coup la critique de Trump n'est pas justifiée parce que il n'est pas seul à la porter cette forme de complaisance de l'OMS vis-à-vis de Pékin. Il y a un certain nombre d'observateurs qui l'ont souligné. Oui. On se souvient évidemment des éloges dressés à la Chine par le directeur exécutif de l'OMS, le docteur Tedros. Donc là, on peut dire que quand même, ce lien avec la Chine, il n'est pas totalement inventé et exagéré par Trump.
Non, donc ça, c'est la première, puis on rentre ensuite dans les critiques, en fait, qui sont faites à l'OMS. Donc, vous avez mentionné les trois qui sont faites. Donc, sur le premier point, donc l'attitude vis-à-vis de la Chine et le fait d'avoir été trop conciliant. la manière dont on peut comprendre ça, moi je crois qu'il y a eu, il y a eu un choix, je dirais que c'est un choix stratégique, un choix diplomatique de la part du secrétariat général de l'OMS, c'est-à-dire du directeur général de l'OMS, le docteur Tedros, et puis quelques-uns de ses conseillers, qui ont cherché à s'assurer la coopération de la Chine par la conciliation, une attitude donc très conciliante, et non pas finalement par la confrontation, une attitude, on va dire, de dénonciation plus ferme. Donc là, il y a eu le choix, je crois, vraiment de la conciliation, je dirais peut-être pragmatique, pour obtenir des informations, pour pouvoir envoyer une mission en Chine également dès le mois de février.
Ça a porté ses fruits, ça a marché. Il y a eu effectivement, l'OMS a obtenu des informations sur la pandémie par les Chinois. Alors,
l'OMS donc a envoyé cette mission en Chine mi-février, a fait un rapport, qui a été présenté à la presse puis au Monde fin février. Et donc, ce que ça a permis d'obtenir, alors, un certain nombre d'informations, pas tout, parce que donc, ce qui est intéressant, et ça, c'est que c'était une mission conjointe, OMS Chine, donc avec des membres internationaux et des membres chinois. Et évidemment, comme dans tous les cas, l'OMS, elle doit respecter la souveraineté des États, et elle est donc dépendante de ce que les gouvernements veulent bien lui montrer. Mais néanmoins, donc, ce qui est intéressant dans cette mission, c'est qu'elle a analysé la réponse chinoise. Et c'est vrai que le rapport qui en a été fait, il y a eu des accusations on lui a reproché d'avoir un ton trop élogieux. Mais là, je crois qu'il faut bien comprendre aussi ce que c'est que le travail d'une organisation internationale comme ça, de l'OMS, c'est-à-dire que c'est un rapport qui est également un document diplomatique. Et ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est que le directeur de la mission en Chine, le docteur Bruce Hayward, donc un épidémiologiste canadien, ensuite, il a donné beaucoup d'interviews dans la presse, et dans la presse, il a très, notamment une interview au Financial Times dans laquelle il expliquait comment il avait dû avoir des négociations avec les autorités chinoises, faire des allers-retours pour se mettre d'accord sur chaque mot. Voilà, donc un vrai travail diplomatique.
Il faut pas oublier qu'on reste là quand même dans le champ de la diplomatie et que donc il faut bien faire attention. Mais Oriane Guilbeault, et puis par ailleurs, je me faisais l'avocat de Donald Trump. Si je me fais l'avocat de l'OMS, en réalité, l'OMS est toujours attaqué. Là, c'est son retard, ses liens avec la Chine pour le Covid-19, mais pour Ebola, c'était toujours le retard. Pour le H1N1. On avait dit qu'il y avait une collusion entre l'OMS et l'industrie pharmaceutique. Bref, on lui trouve toujours évidemment des torts. Mais il n'empêche, Oriane Guilbeault, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui appellent à une réforme de l'OMS. Est-ce qu'il vous semble qu'elle est souhaitable? Et est-ce quelles seraient les pistes intéressantes? Et est-ce qu'elle est possible?
Oui. Ben, en fait, c'est ce que vous venez de le dire dans votre question. L'OMS, finalement, elle est toujours, quand elle est critiquée, les plus fortes de ses critiques, en fait, vont porter sur la relation avec des acteurs puissants au niveau international. Donc là, en ce moment, vous avez dit la Chine. Avant, c'était les États-Unis, parce que les États-Unis, le premier contributeur financier de l'OMS, donc avant l'annonce de la suspension des financements par Donald Trump, donc l'OMS était auparavant accusée d'être très fortement dépendante des États-Unis. L'industrie pharmaceutique également, et l'OMS est souvent critiquée pour ses liens avec elle. Et puis la Fondation Gates également, autre acteur puissant dans le champ de la santé. Et l'OMS est c'est le deuxième contributeur financier à l'OMS, la Fondation Gates. Et donc, donc il y a effectivement.
Et est-ce que la réforme est possible?
Et donc ça montre le besoin justement de renforcer en fait l'autonomie de l'organisation et donc de la réformer. Et donc des réformes à l'OMS en fait, je dirais que oui, c'est possible de réformer l'organisation. La question c'est à quelle échelle, avec quel niveau d'ambition. Parce qu'en fait, après chaque crise épidémique, finalement, il y a une réforme qui est mise en route. Et face à une crise d'une telle ampleur et face à des demandes, parce qu'on voit qu'il y a énormément de demandes vis-à-vis de l'OMS. en ce moment. C'est ça
qui pour
frappant.
L'instant, on évoque la possibilité d'une évolution dans le processus de décision, de déclaration de la pandémie, d'une pandémie.
Oui, alors ça, une réforme qui avait déjà été lancée, si je puis dire, enfin qui était déjà en réflexion juste avant que la crise actuelle n'arrive. Mais après, il peut y avoir la réforme de l'OMS, ce que beaucoup d'acteurs soulignent depuis longtemps, c'est qu'une des premières choses à faire, en fait, c'est de financer mieux l'organisation. Parce que
Pour lui donner davantage d'autonomie et d'indépendance vis-à-vis des États. Peut-être une petite réaction de Serge Sur sur cette OMS qu'on a mis sur le banc des accusés avant d'évoquer un autre sujet avec un autre invité qui est l'annulation de la dette africaine, en tout cas les appels à annulation de la dette africaine. Serge Sur sur l'OMS, qui, il faut pas l'oublier, fait de la diplomatie aussi.
Oui, c'est une organisation intergouvernementale. Elle en a toutes les caractéristiques et toutes les faiblesses. C'est-à-dire que ça n'est pas une agence exécutive. Elle est dominée par les considérations diplomatiques des États membres. Les États-Unis y ont joué un rôle prédominant. Maintenant, c'est la Chine, du fait de l'absence des États-Unis. Mais les États-Unis ne sont pas véritablement absents. Comme le rappelait tout à l'heure, très justement, votre interlocutrice, il y a la fondation Bill et Melinda Gates, qui est le deuxième contributeur et qui joue également un rôle tout à fait autonome dans le domaine de la santé publique internationale. Et notamment sur le Covid-19, la fondation est active, et notamment en finançant les recherches. Et donc, au fond, les États-Unis ont deux fers au feu. Ils ont un fer diplomatique et puis ils ont aussi le fer de la fondation. Parce que tout de même, la fondation est la vie, peut-être pas pour l'État américain, mais tout de même pour la société américaine. Alors là, nous voyons une autre forme de multilatéralisme ou de mondialisation qui est celle des GAFAM. Parce que, voilà, la fondation Bill et Melinda Gates, c'est ça.
Oui, les acteurs
acteurs privés qui sont tout de même, d'une certaine façon, dépendants d'un État, lié à un État. Et donc, vous voyez la stratégie américaine, lorsque ça n'est pas le gouvernement ou l'État qui intervient, il y a toujours les acteurs privés qui peuvent prendre le relais. Donc, ils ne sont pas absents en réalité.
Merci beaucoup, en tout cas, à Oriane Guilbeault d'avoir été ce matin avec nous, nous avoir éclairé. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences de sciences politiques à l'Université Paris 8 et chercheuse au CNRS. On va prendre la direction de l'Afrique. Le 14 avril dernier, le président Macron a appelé à l'annulation massive de la dette des pays africains pour les aider à surmonter la crise sanitaire, économique, sociale engendrée par la pandémie.
Nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique à lutter contre le virus plus efficacement, à les aider aussi sur le plan économique en annulant massivement leurs dettes. Oui, nous ne gagnerons jamais seuls. Parce qu'aujourd'hui, à Bergame, Madrid, Bruxelles, Londres, Pékin, New York, Alger ou Dakar, nous pleurons les morts d'un même virus.
Voilà. Et puis deux jours plus tard, c'est le G20 qui a annoncé la suspension temporaire de la dette d'une quarantaine de pays du continent. De nombreuses voix ont salué cet engagement au nom de la solidarité internationale. Et pourtant, aussi généreuse soit-elle, l'annulation de la dette est-elle vraiment un cadeau, une bonne idée pour les États africains et peut-elle vraiment tenir lieu de politique de solidarité? On va retrouver un nouvel invité, Kako Nupukpo. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, ancien ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques du Togo. Première question, comment est-ce que vous avez accueilli cet appel d'Emmanuel Macron, cette annonce du G20? C'est une bonne nouvelle pour les pays africains?
Oui, je pense que le moratoire, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire la suspension du remboursement de la dette. Mais l'annulation de la dette ne me paraît pas être une bonne nouvelle. Pour deux raisons. La première, c'est que il faut pas donner l'impression au reste du monde que l'Afrique est un client insolvable. Ce n'est pas une très bonne chose parce que ça fera augmenter demain les primes de risque sur la dette africaine. Et puis, deuxième chose, c'est que, au fond, cette affaire d'annulation de la dette est une affaire récurrente. Et donc, pour moi, c'est une sorte de réponse conjoncturelle à une question qui est une question structurelle.
Alors, voilà. Justement, on va venir à cette question structurelle, mais vous avez raison, c'est-à-dire que vous soulignez un des points qui est très important, c'est que cette annulation, c'est peut-être une fausse bonne idée, en ce sens que, comme vous le disiez, il va y avoir des primes de risque qui vont augmenter, ça va fragiliser la solvabilité des États, et lorsqu'il faudra demain emprunter, parce qu'il faudra bien demain aussi emprunter pour les Africains, hein, tout le monde va probablement devoir emprunter, on en sait quelque chose ici en Europe, eh bien, ça sera beaucoup plus compliqué. Sur la persistance, justement, des dettes africaines, parce que, évidemment, là encore, le continent africain est très loin d'être le seul concerné par la dette, mais il y a quelque chose de particulièrement notable, c'est cette persistance des dettes africaines. Pourquoi, au fond, ces pays africains ne parviennent pas à sortir de cette spirale de la dette, Kako Nobukpo?
Oui, je crois qu'il y a deux raisons. La première, c'est la mauvaise gouvernance chronique. Vous avez des dirigeants qui ne gèrent pas sérieusement les finances publiques. Et donc, de façon récurrente, on doit essayer d'annuler cette dette. Il faut quand même voir que la dette africaine a doublé en 10 ans. On a annulé la dette africaine il y a 10 ans du fait de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. Et donc, on était à 30% par rapport au PIB. Et là, on passe à 60% en 10 ans. Donc, l'annulation, pour moi, c'est une prime à la mauvaise gouvernance. Ensuite, il y a une question structurelle, c'est que la base productive africaine, elle est très faible. C'est-à-dire que ce qui fait les recettes africaines, ce sont les exportations de matières premières. Or, les cours des matières premières sont très volatiles. Et donc, on a un mal fou à stabiliser des budgets face à une demande sociale qui est très forte. Parce qu'on a une démographie, comme vous savez, qui est très dynamique. La population double tous les 25 ans. Donc la demande en santé, en éducation, en formation, elle est très forte. Donc là, c'est plus l'élargissement de l'espace fiscal qui est l'enjeu. Mais comment vous pouvez avoir l'élargissement de l'espace fiscal? C'est simple. Il faut produire ce qu'on consomme. En produisant, vous créez les emplois créent les revenus créent les impôts, et les impôts créent l'espace fiscal. Et donc, tant qu'on n'aura pas mis le curseur sur la question de...
Voilà, alors là, c'est une ligne qui est perdue, c'est parfaitement clair. On va essayer de rappeler Kako Nobukpo pour poursuivre notre échange autour de cette question de la dette. Serge Sûr, vous êtes toujours avec nous.
Oui, oui.
Je vais peut-être en profiter pour vous faire réagir sur ce que nous disait notre invité, et notamment cette dernière formule qui est intéressante, c'est qu'il disait l'annulation de la dette, c'est au fond une prime à la mauvaise gouvernance. En tout cas, c'est aussi cela. Pour vous aussi, vous pensez que cette proposition, c'est pas forcément la meilleure idée, en tout cas qu'il y a d'autres moyens peut-être plus pertinents pour aider le continent africain?
Alors écoutez, dans l'immédiat, je n'en connais pas d'autres. Mais il a absolument raison. Je souscris entièrement à tous les propos qu'il a tenus et qui étaient extrêmement lucides. D'une part, c'est un problème récurrent, parce que la dette, on l'a déjà annulée, on l'annule assez régulièrement. Et d'autre part, c'est bien une prime à la mauvaise gouvernance. Et c'est tout de même un problème de fond. Ouais. Tout de même un problème de fond que 60 ans après l'indépendance, les pays africains n'aient pas réussi à assurer leur décollement économique et à assurer une bonne gestion des affaires publiques. Mmh. Alors ça pose le problème des relations internationales. Je ne veux pas dire que c'est leur responsabilité. C'est une responsabilité collective. Il se trouve que le système de répartition des échanges est fait de façon à les désavantager. Et on n'a jamais trouvé la bonne solution. Ils ont essayé eux-mêmes. Je rappelais tout à l'heure l'idée du nouvel ordre économique international qui était promu par les pays en développement dans les années 70 et jusqu'au début des années 80. Ça a été un échec. Un échec dont on ne s'est pas remis, en fait. Et on n'a pas trouvé de solution alternative. Et ça doit nous interpeller collectivement. C'est le problème africain, mais c'est aussi notre problème.
Alors, on va retrouver.
Et puis, une autre observation.
Je vous en prie, allez-y, poursuivez.
Une autre observation que je voudrais faire, c'est à propos de la démographie. Il a terminé sur la question démographique et sur la croissance de la population. Alors là, il y a à peu près un demi-siècle, on s'interrogeait sur le contrôle des naissances. Les Nations Unies organisaient des conférences sur la population. Et l'idée était qu'il fallait arriver à réguler les naissances et faire en sorte que...
Voilà, c'est donc une deuxième ligne qui casse, c'est ça, les joies du direct, du déconfinement, mais la magie de la radio, c'est que quand l'un casse, l'autre se rétablit. Kako Nobukpo, vous êtes avec nous.
Oui, tout à fait.
Donc on va reprendre notre échange. Et effectivement, vous évoquiez la question de la démographie.
Voilà, j'insistais voilà, sur la question démographique qui crée une demande forte et en face de laquelle nous avons l'obligation d'avoir une réponse africaine, une production africaine. Et c'est l'augmentation de cette production qui va engendrer la hausse des emplois, laquelle hausse d'emplois va engendrer la hausse des revenus et laquelle hausse des revenus va engendrer la hausse des impôts, ce qui va élargir l'espace fiscal. Mmh. Et donc faire qu'on va moins dépendre du commerce international. Et donc je crois qu'il faut avoir les deux fers au feu. L'amélioration de la gouvernance, et ça, la communauté internationale a fait beaucoup d'efforts. Hein. On a la déclaration de Paris de 2005 qui permet d'avoir les principes pour une bonne aide publique au développement. Il faut, à mon avis, poursuivre ces efforts et ne pas abandonner l'idée quand même que l'Afrique doit être beaucoup plus autosuffisante qu'elle ne l'est à l'heure actuelle.
Mmh. Et alors, quoi ? Ça veut dire qu'au fond, peut-être que ces appels à annuler ou à suspendre ces dettes, si elles ne sont pas la meilleure solution, quelle solution préconisez-vous ?
Non, moi je pense qu'il faut augmenter le taux de pression fiscale. Aujourd'hui, les taux de pression fiscale en Afrique tournent autour de 20%. C'est deux fois moins que dans le reste du monde. Et pour ça, il faudrait plus fiscaliser, mieux fiscaliser le secteur informel africain.
Mais ça, j'entends parfaitement ce que vous dites, mais ça, c'est effectivement une décision qui joue sur un problème structurel. Mais si on en revient à ce qui a motivé ces appels à annulation de dette, c'est bien la lutte contre la pandémie et ses conséquences économiques et sociales. Puisque précisément, c'est pas la bonne option, l'alternative, laquelle est-ce ? On va pas régler les problèmes de fiscalité tout de suite maintenant.
Tout à fait. C'est pour ça que je pense que le moratoire, c'est, en termes de jugement de Salomon, c'est une bonne option. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a besoin d'à peu près 45 milliards de dollars. Le moratoire va permettre de les obtenir. Mais l'idée, c'est d'aller au-delà. Par exemple, notre système de santé en Afrique nécessiterait 66 milliards de dollars par an. Nous ne les avons pas, mais il faudrait justement que les mesures ne soient pas que des mesures de très court terme. Et c'est pour ça qu'à mon avis, en même temps que nous maintiendrons l'idée du moratoire, nous devons tout de suite renégocier avec les bailleurs, le Fonds monétaire, l'Union européenne, les aides pour qu'elles aillent plutôt vers le développement des secteurs sociaux, comme la santé. Ce qui s'est passé ces 30 dernières années, c'est que, sous l'égide du FMI et de la Banque mondiale, nous avons mis l'accent exclusivement sur les équilibres macroéconomiques de court terme. Et donc, les angles morts du développement africain, c'est ce qui est révélé aujourd'hui par cette pandémie du Covid-19. Nous n'avons pas de respirateurs artificiels, nous n'avons pas les médecins formés. Nous avons en termes de taux à peu près 4 médecins pour 10 000 habitants. Et quand vous sortez des capitales africaines, vous avez 3 médecins pour 100 000 habitants. Et donc, vous voyez, même si le reste du monde déversait des milliards aujourd'hui sur l'Afrique, ça ne réglerait pas
tout. Il faut régler les choses à la racine. Merci infiniment, Kako Nobukpo, de nous avoir éclairé. Il y a encore plein de choses que j'aurais voulu évoquer avec vous, mais je vais renvoyer nos auditeurs à une excellente tribune que vous avez publiée pour Le Point, qui permet vraiment de parfaitement comprendre ce paradigme de l'aide par l'endettement. Merci beaucoup de nous avoir éclairé. Je rappelle que vous êtes également l'auteur de L'urgence africaine, changeons le modèle de croissance, qui a été paru chez Odile Jacob. Oh, Voilà, c'est avec ce superbe morceau de Voodoo Game qu'on se quitte. On mettra évidemment les références de ce morceau sur la page de Culture Monde. Un grand merci à Serge Sûr d'avoir été avec nous ce matin. Je remercie également le CDM qui a permis de faire la liaison jusqu'à nous. Dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et la Grande Table pour nous. Ça sera demain.